58. Et c'est vrai que notre environnement contemporain est baigné de musique, peut-être un peu trop, mais enfin, aucun lieu, aucun moment ne sont épargnés. Et il faut dire que la musique et le chant avaient déjà une place privilégiée dans la vie cultuelle et culturelle d'Israël. Et l'absence de musique était synonyme de tristesse, de deuil. Et même là, à cette occasion-là, la musique accompagnait les cortèges. L'Éternel avait demandé que l'on désigne des chanteurs et des chefs de chant pour le service du temple et pour agrémenter aussi les nombreuses fêtes du calendrier. Le chant ne se limitait d'ailleurs pas au culte, aux frontières du culte. Toute la vie du peuple était rythmée par la musique. Et dans les chroniques, vous vous souvenez peut-être, il nous est précisé que pour le service du temple, le nombre des chanteurs formés et passés maîtres dans l'art de louer l'Éternel par le chant était de 288. C'est précis. Et Esdras rapporte que sur l'ordre d'Artaxerxès, le roi de Perse, les chanteurs et puis leurs chefs étaient dispensés de payer les impôts. Quelle bonne idée! Ça pourrait donner des vocations, je crois qu'il faudrait le suggérer. C'est motivant. Belle époque. Ça stimule les vocations. Et vous savez que la moitié du recueil des psaumes est constituée d'hymnes, de louanges, mais en fait, le chant permettait d'exprimer tout l'éventail des sentiments humains. Et ce qui est vrai pour Israël, l'est encore pour l'Église, la nôtre, ici. Le chant est une partie importante du culte rendu à Dieu. Et je crois qu'il doit être rassembleur. Rassembleur. Il permet la communion les uns avec les autres. Nous nous trouvons entre générations devant Dieu. La musique contribue à édifier le corps de Christ, j'en suis certain. Alors on raconte qu'Amphion, ou dire des poètes grecs, bâtit la ville de Thèbes au son de sa lyre. Les pierres sensibles à la douceur de ses accents accouraient et se plaçaient les unes sur les autres. Si ça pouvait être le cas ici, ce serait pas mal. Chanter un cantique, c'est vrai, c'est ouvrir notre bouche pour la prière ou la louange, alors que bien souvent, elle reste fermée. C'est par le chant que notre foi peut s'exprimer. Il fait passer par l'oreille ce que l'œil voit, et même ce qui est invisible. Et c'est important. Le chant soit donc une fête au milieu de nous, ici. Et je crois que nous avons des progrès à faire, mais pas qu'ici. C'est général. Chanter à la gloire de Dieu, le psaume 148, nous y invite, et en voici la lecture. Pour faire plaisir à nos amis, Calvin disait que chaque psaume est comme un miroir tendu devant nous pour que nous puissions nous y reconnaître. Alors, ce psaume 148, je le lirai dans la version en français courant. Alléluia, vive le Seigneur du haut du ciel, glorifiez le Seigneur, glorifiez-le, vous qui êtes là-haut, glorifiez-le, tous ses anges, glorifiez-le, toutes ses troupes, glorifiez-le, soleil et lune, glorifiez-le, toutes étoiles scintillantes, glorifiez-le, espace reculé du ciel, et vous aussi, masse d'eau plus haute encore, que tous glorifient le Seigneur, car il n'a eu qu'un mot à dire. Et ils ont commencé à exister, il les a mis en place pour toujours, leur fixant une loi à ne pas enfreindre. Depuis la terre, glorifiez le Seigneur, glorifiez-le, océans et monstres marins, et vous aussi, feu et grêle, neige et brouillard, vent de tempête soumis à sa parole, glorifiez-le, montagnes et collines, arbres fruitiers, et tous les cèdres, animaux sauvages et domestiques, oiseaux et reptiles, glorifiez-le, roi de la terre, et vous aussi, tous les peuples, les princes, les dirigeants de la terre, garçons et filles, jeunes et vieux, glorifiez le Seigneur, car lui seul porte un grand nom. Sa majesté s'étend sur la terre et le ciel. Il a rendu force et fierté à son peuple. C'est un titre de gloire pour ses fidèles, pour tous les membres d'Israël, le peuple qui lui approche. Alléluia. Vive le Seigneur. Alors ce psaume et les deux autres qui le suivent, le 149 et le 150, forment comme un point culminant du psaumier. Il n'est pas étonnant que ce recueil de chants, si riche et varié, où se mêlent l'angoisse, la prière, l'imprécation, la colère, mais aussi la louange, pas étonnant que ce psautier se termine finalement par la louange, comme si elle seule était importante, comme si elle était le remède à tous les maux, la seule valeur qui demeure, au-delà de la mort, jusqu'en éternité. Louez l'Éternel. Mais alors, comment est-ce possible pour ceux qui portent sur leurs épaules, et il y en a parmi nous, un fardeau trop lourd, celui d'une situation matérielle préoccupante, celui d'une santé fragile, celui d'une maladie dont les médecins désespèrent, ceux qui portent le poids de la solitude, d'un foyer brisé par la séparation ou le départ d'un être cher. N'en finirait pas. Dénoncer des situations qui peuvent pousser les hommes, les femmes, des enfants à s'insurger contre cette invitation au chant, la provocation, tant leur expérience personnelle les rend incapables de joindre leur voix à ces belles paroles d'une époque révolue. Et nous en rendons bien compte. Il y a parmi nous des lèvres qui ne se desserrent pas pour le chant. Et on se doute bien qu'il y a une raison. Le psalmiste rêve, et son optimisme peut paraître cruel et irresponsable à ceux qui ont de bonnes raisons de douter de l'évidence de la gloire de Dieu dans le monde et dans leur propre vie. Alors, si on s'arrêtait un peu, si on passait en revue quel motif, le poète, sans doute David, et vous savez qu'il en a vu des vertes et des pas mûres, quel motif il a trouvé pour la louange, malgré tout. Le verbe louer, vous pouvez compter, ou chanter, est répété 12 fois dans ces quelques versets. 12 fois. Il comporte 4 strophes, comme le cantique 58, qui a été proposé il y a quelques instants. Première strophe, que les cieux et la terre louent l'Éternel. Deuxième, que les hommes louent l'Éternel. Troisième, que son peuple le loue. Et enfin, le psalmiste conclut en donnant une note toute particulière à cette louange et une raison spéciale de lui donner cours. Le monde entier, avez-vous remarqué, est invité à la louange. Et sur ce point, le psalmiste est prophétique, parce que tout simplement, cette louange universelle ne sera réalité qu'avec les nouveaux cieux et la nouvelle terre que Dieu suscitera. Nous avons vu ça il n'y a pas très longtemps en étudiant le livre de l'Apocalypse de Jean. Et Jean rapporte ceci. Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, Il les entend qui chantent à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, soit louange, honneur, gloire et puissance pour toute l'éternité. Apocalypse 5, 13. Ici, dans ce psaume, toute la création, les cieux, la terre et ce qu'il renferme, les animaux, les plantes, les hommes, les femmes, les grands, les petits, les aînés, les enfants, vous et moi sont encouragés à louer l'Éternel dès maintenant. Et les motifs ne manquent pas, même s'ils seront infiniment plus évidents. En d'autres temps, ceux qui sont révélés à Jean dans son extraordinaire vision, que nous continuons d'étudier le jeudi soir. Le psalmiste est sorti un soir, comme il vous arrive de le faire, je pense. Il a levé les yeux vers le ciel étoilé, il en a admiré la beauté, émerveillé. Il a découvert là qu'il était une minuscule créature. Et face à l'immensité qu'il ne peut embraser d'un seul regard, les mots se bousculent dans sa bouche. Et il interpelle tout l'univers, les cieux, toute la création sont personnifiés, comme si c'était des personnes et invités à être les chantres de la gloire de Dieu. Soleil, lune, étoiles sont exhortés à célébrer la gloire du Seigneur. Ce qu'à l'évidence ils font déjà. Psaume 19, vous vous en souvenez, le ciel raconte la gloire de Dieu, le firmament montre l'œuvre de ses mains. Le jour transmet la nouvelle à un autre jour, la nuit la fait savoir à une autre nuit. Les cieux racontent la grandeur de leur Créateur, même s'ils n'utilisent pas le langage des hommes. Le langage astral est comme une musique qui s'élève à la gloire de Dieu. Mais pour le psalmiste, le ciel, c'est également un autre monde. Il semble établir une distinction entre le ciel bleu atmosphérique, celui que nous pouvons contempler, celui des étoiles, le ciel sidéral, aux dimensions vertigineuses dont les limites reculent avec les progrès de la science, mais qui reste un espace matériel, et ce qu'il appelle les cieux des cieux. Il fait une distinction avec un autre monde spirituel, à ne pas oublier, la demeure de Dieu et de ses anges. Paul écrira plus tard, avoir été ravi jusqu'au troisième ciel, comme pour indiquer le lieu de la présence même de Dieu, ce que le psalmiste appelle ici les cieux des cieux. Les cieux des cieux sont invités à se joindre à ce chant avec leurs hôtes, les anges, et ceux qui sont nommés ici les armées de l'Éternel. Alors, qui sont-ils ? On a rarement parlé des anges. Je ne vais pas en parler longuement, mais ce sont un monde spirituel, mystérieux, immatériel, des êtres spirituels créés par Dieu. Hébreux. Ils diffèrent dans leur dignité, anges, archanges, autorité, domination, mais tous ont un point commun, ils sont au service de Dieu. Les anges qui sont restés fidèles, il y en a d'autres, mais ceux qui sont là sont au service de Dieu pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Vous, moi. Hébreux 1, 14. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les protéger et les arracher au danger. Psaume 34, 8. Très mêlés à la vie des hommes, ils sont aussi présents dans la vie de Jésus. C'est assez remarquable depuis sa naissance, la tentation au désert, par exemple, Gethsémané, sa résurrection, toute cette multitude d'êtres célestes, ce monde invisible mais réel, est convié lui aussi à louer l'Éternel. Et alors aussi les eaux qui sont au-dessus des cieux. Le psalmiste partage là une conception babylonienne, qui est fausse, mais qui distingue les eaux d'en haut, retenues par la voûte céleste, et qui donne la pluie, la rosée, et celles d'en bas, que sont les rivières, les fleuves, qui puisent leur source dans un gigantesque réservoir souterrain. C'est erroné, c'est vrai, c'est dépassé du mieux. Mais le but est d'associer tout l'univers à cette louange. Pour trois raisons essentielles, qui sont aussi les nôtres d'ailleurs, y reviendront. Ces éléments, tous ces éléments, soleil, lune, étoile, haut d'en haut et d'en bas, doivent leur existence à celui qui les a créés. Mais ils doivent aussi leur pérennité, leur durée à celui qui les tient dans sa main. Ils lui sont redevables de leur harmonie en raison de lois immuables. Le psalmiste le rappelle ici, que le Créateur lui-même n'enfreindra pas, non qu'il n'en soit pas le maître, mais il a décidé de les maintenir. Elles font l'admiration d'ailleurs des savants honnêtes. Et il y en a, et des moins savants. Alors la deuxième strophe, plus rapide, c'est la terre qui est sollicitée avec tout ce qu'elle contient, la mer, les montagnes, le feu, la grêle, la neige, le brouillard, le vent, les arbres. Et alors j'étais frappé, les animaux sauvages et domestiques, précise cette traduction, les chiens, les chats, les crocodiles, les ânes, les oiseaux et les hommes, couronnement de la création. Impressionnant, les détails de cette liste, comme si le psalmiste ne voulait oublier aucun intervenant dans ce chant, aucun instrumentaliste, aucun exécutant dans ce concert de louanges. Hommes de toutes conditions, des rois au peuple qui gouvernent, des princes à ceux qui exercent la justice, il précise même des jeunes hommes aux jeunes filles, des garçons aux filles, des vieillards, alors il n'y en a pas ici, et des enfants, il y en a quelques-uns en bas. Et tout à l'heure, ça a été souligné, notez l'importance accordée par la parole de Dieu à la louange des enfants, des tout-petits, ces faibles parmi les faibles. Comme si c'était dans sa faiblesse, sa vulnérabilité, sa dépendance que la louange de l'homme a le plus de prix. Aux chefs du peuple qui veulent faire taire les enfants alors qu'ils chantent ces louanges et crient à tue-tête gloire au fils de David, Jésus répond par un texte des psaumes lui aussi, psaume 8, verset 3. N'avez-vous jamais lu cette parole de la bouche des tout-petits et de celle des nourrissons, tu as su tirer ta gloire. Louez Dieu, parce qu'on se sait petit, pauvre en soi-même, conscient de son rien, savoir accepter que la vie soit donnée chaque fois comme un cadeau, sans que rien ne puisse être rendu en échange, sinon la louange. La louange, c'est une manière de dire son admiration face à toutes les merveilles dont nous sommes encore les témoins. Et ça me rappelle l'histoire d'un petit enfant admiratif. Il y avait au centre d'un village un gros rocher vilain qui dépareillait complètement la place de l'église. Tout affreux. Il faut l'ôter. Alors évidemment, dans le village et tout alentour, aucune grue ne permettait de soulever ce rocher. On n'avait pas assez d'argent pour aller dans la grande ville pour chercher l'engin qu'il fallait. Et un jour, un sculpteur venant d'un pays étranger passa par là et apprit la nouvelle. Il vint proposer ses services. Le marché fut conclu et pendant des semaines, derrière la palissade et l'énorme bâche qui cachait le rocher, on entendit le sculpteur travaillait à l'abri des regards. Enfin, au bout de plusieurs mois, on put dévoiler la sculpture et l'on découvrit un magnifique cheval. Applaudissements de la foule. Voici qu'un enfant stupéfait se détacha du groupe d'admirateurs pour interroger le sculpteur. Comment savais-tu qu'il y avait un cheval dans ce bloc de pierre? Louer, c'est discerner une merveille dans le bloc de pierre qui nous barre le chemin ou qui nous enveloppe. C'est sans doute un obstacle à la louange, mais qui pourrait disparaître si notre regard se portait sur la grandeur de Dieu plutôt que de rester accroché, rivé, captif de toutes les petitesses qui accaparent, de toutes les mesquineries, les poussières de la terre qui se prennent pour des rochers. Louer Dieu, la grandeur sans limite, la puissance que rien n'arrête, et c'est ce Dieu souverain, le maître de ma destinée, qui m'accompagne aujourd'hui et demain pour mettre dans mon journée, mes journées, un peu de sa grandeur. La louange à chaque instant, c'est difficile. Quand on est aux prises avec ce tourment précis qui vous tenaille ou ce mal-être diffus qui paralyse, mais je reste persuadé. Et vous pouvez aussi en témoigner, chacun, comme Job, que Dieu s'est encore aujourd'hui inspiré des chants de louange au cœur même de la nuit. Et nous voici arrivés à la troisième strophe. Les motifs de louange s'enrichissent d'un nouveau prétexte. Il loue le nom de l'Éternel, car son nom est sublime. Vous vous souvenez sans doute de l'importance du nom qui est donné. Il y avait une relation directe entre le nom et la personne qui le portait, à tel point que connaître le nom, c'était connaître la personne. Ici, l'Éternel, c'est Yahvé. C'est le nom ineffable que l'on ne s'autorisait pas à prononcer. Et quand on devait substituer dans la lecture le nom du Seigneur, c'était Adonai. C'est celui qui est là. Dieu éternel, mon présent. Je suis. C'est ainsi qu'il se définit à Moïse. Je suis celui qui est à l'origine et au terme de toute existence. Sa majesté domine la terre et les cieux, et contrairement aux apparences, il règne, même dans ce monde où tout le monde s'oppose à cette idée, à cette prétention. Oh, Dieu paraît tellement et si longtemps absent et silencieux, et pourtant il est là. Il empêche que tout s'écroule par la folie des hommes. Et je peux vous dire qu'il cavale en ce moment. Il s'agit de redresser. Et dans l'histoire insensée et furieuse du monde, il avance, lui. Il accomplit ses desseins. Et c'est la réalité qu'on aperçoit en filigrane derrière toute l'histoire du monde. Cela reste vrai à travers beaucoup d'obscurité, j'en conviens. Et dans un temps et une durée qui ne sont pas les nôtres, il règne. Un règne à la fois visible et invisible, à venir et déjà présent. Dieu est le maître, et c'est notre Dieu, le Dieu unique, incomparable, souverain, celui qui domine et qui, en même temps, se révèle comme le Dieu d'alliance, qui veut s'unir à l'homme pour le sauver du désastre et de la mort. Connaître son nom, c'est le connaître, reconnaître sa personne, son œuvre de justice et d'amour. Une connaissance bien imparfaite encore, mais suffisante pour le louer. Et voici que le psalmiste dévoile une nouvelle facette de Dieu dans sa relation avec les siens et ses interventions en leur faveur. Et c'est la quatrième strophe et conclusion, c'est aussi la nôtre. Il a relevé la force de son peuple. Autre traduction, il a rendu force et fierté à son peuple. Dieu relève nos forces. Et heureusement, car nous sommes confrontés à un ennemi plus fort que nous. Nous savons bien que livrer à nous-mêmes, c'est la déroute. Mais c'est dans notre faiblesse que Dieu se plaît à intervenir de telle manière qu'il soit clair pour tous que c'est Dieu qui agit. 2 Corinthiens 4, 7, nous portons ce trésor, c'est-à-dire la lumière de l'Évangile qui transforme les vies. Nous portons ce trésor dans des vases de terre pour qu'on voit, bien que cette puissance, et il en faut de la puissance pour transformer une vie, pour qu'on voit que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et non pas à nous. Il a relevé la force de son peuple, il a rendu la fierté à son peuple. Et nous oublions, tout simplement parce qu'on nous persuade de cela dans les médias et ailleurs, nous oublions qu'il y a une légitime fierté pour un enfant d'avoir un tel père. Cette fierté authentique n'est pas orgueilleuse, bien au contraire, elle s'accompagne d'humilité car elle puise sa source dans la grâce divine. Relevons la tête alors. Nous sommes enfants de Dieu. Une raison bien suffisante pour stimuler la louange. Mais il y a plus grandiose encore en finale. Et si vous relisez le texte dans la traduction du semeur, peut-être quelqu'un, peut-être de vers lui, le psalmiste annonce une étonnante promesse. En lui, tout est admirable. Il a préparé un libérateur. Il a préparé un libérateur pour son peuple. C'est la réponse aux vrais besoins des hommes. Un libérateur. Il suffit d'écouter les publicités pour voir à quel point vole le niveau des consommateurs de notre temps. Et n'en déplaise à tous les maîtres matérialistes, seul Dieu est libérateur et désaliénant. Le pire esclavage, la pire aliénation, c'est ce désir inassouvi, généralisé, qui renaît après avoir tout obtenu ce que l'on voulait, nous laisse sur notre soif. Dans le monde de robots, d'esclaves que fabrique notre civilisation, seul Dieu peut engendrer des hommes libres, ses enfants. C'est le mot final de ce cantique de louange. Il s'appuie sur la relation unique entre Dieu et ceux qu'il a choisis pour être les siens. Et le psalmiste prophétise ce que Christ allait réaliser des siècles plus tard. Oh, il ne le savait pas, mais il le pressentait. L'Esprit le lui inspirait. Par amour pour sa créature, Dieu se rapproche à un tel point d'elle, en la personne de son Fils, il va partager son sort. Lui, l'ineffable, l'inconcevable, Dieu s'est fait homme pour libérer l'homme. On avait voulu le laisser au ciel. Ça arrange bien tout le monde, ça. Mais il est avec nous. Amour poussé à l'extrême, car le Créateur consent à la mort de son Fils pour nous donner la vie. Nous sommes aimés de Dieu, surtout parce que nous avons le sentiment de ne pas l'être. Nous sommes aimés de Dieu et nous l'aimons en retour, car l'amour appelle l'amour. L'homme n'est qu'un roseau plus faible de la nature, mais un roseau aimé et aimant. Dieu est amour. Je crois que de tous les mots humains, avec leur richesse et leurs limites, c'est celui d'amour qui pouvait le mieux qualifier Dieu révélé en Jésus-Christ. Et cet amour serait-il trop peu de choses pour motiver notre louange, alors prenons notre place d'enfant de notre Père dans cet univers qui déjà chante son hymne de louange et que notre souffle, si tenu soit-il, s'accorde aux accents de ce concert qui n'aura pas de fin. Et en attendant cette heure-là, restons motivés pour la louange. Car nous pouvons dire avec Ésaïe, en parlant de l'Éternel, on dira ce jour-là, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est lui qui est notre Dieu. Nous comptions patiemment sur lui et il nous a sauvés. Oui, c'est dans le Seigneur que nous avons mis notre espoir. Quelle joie de l'avoir pour sauveur. Amen.